Je vais inviter Marie-Angèle, si elle veut bien, à venir poser le décor un petit peu pour présenter justement cet impact environnemental lié à la qualité de l'air et comment réussir à allier cela.
Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Effectivement, je vais rapidement vous parler de comment allier performance énergétique et qualité de l'air, ce qu'il faut faire et pas faire. Si je peux récupérer. Donc, les interactions entre le bâtiment et la qualité de l'air sont nombreuses, qu'il s'agisse d'un bâtiment conventionnel ou d'un bâtiment performant en énergie, déjà à part l'environnement extérieur qui peut être un apport de polluants ou des contaminants. Il y a aussi bien sûr une interaction, on va dire que la qualité sanitaire du bâtiment va dépendre aussi des produits de construction avec lesquels il va être fait, donc, et l'émissivité de ces produits de construction. On va voir tout à l'heure qu'il va y avoir une interaction avec la performance de l'enveloppe, et Michael l'a très bien exprimé, vous verrez qu'il y a de nombreux points de convergence avec l'exposé de Michael. Et d'une part avec la performance thermique et d'autre part avec la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau des parois. Il y a bien sûr une interaction avec les systèmes et les équipements et plus particulièrement avec la ventilation et les systèmes à combustion. Et il va y avoir aussi une interaction sur les aspects organisationnels, on va le voir et on le verra tout au long de la table ronde, puis avec le comportement de l'usager que je ne traiterai pas pour des questions de temps. Dans le bâtiment performant, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles pathologies. C'est-à-dire qu'on va retrouver la même pathologie qu'on trouve dans le bâtiment conventionnel, avec la différence que les équilibres sont beaucoup plus sensibles. Pourquoi les équilibres sont beaucoup plus sensibles ? Par tout ce qui a été évoqué déjà aujourd'hui, c'est que l'enveloppe du bâtiment est plus étanche à l'air. Il y a aussi la gestion de la migration de vapeur d'eau qui doit être étudiée. Donc il y a moins de fuites parasites. Et en même temps, on va voir qu'il y a... plus de confinement ou plus de risques de confinement d'humidité à l'intérieur de bâtiments, notamment pendant la phase chantier, et un point essentiel qui est la ventilation. Donc, bâtiment performant, très dépendant de ce système de ventilation dans un contexte français dans lequel elle est encore très mal maîtrisée. Les rapports d'Elortech le démontrent. Donc, il y a beaucoup de constructions résidentielles pour lesquelles la ventilation ne répond pas à la réglementation. Si on parle des produits de construction, donc il y a cette question de l'émissivité de produits. Et je voulais mettre en exergue qu'il n'y a pas que les produits industriels. Il faut bien tenir compte que les produits naturels sont aussi émissifs. Michael a bien mis en exergue que le bois est émissif. Et on a trouvé aussi des cas dans lesquels il y avait une forte émissivité des revêtements bois traités ou dérivés du bois, 7 ans après leur mise en œuvre pendant des périodes de canicule, avec des concentrations de formaldéhyde qui étaient très très importantes. Un autre point qui est essentiel et qui n'est pas culturel, c'est la protection des produits de construction, et notamment ceux qui sont naturels, ceux qui comportent de la cellulose, les matériaux biosourcés, le bois, etc. Parce qu'une fois qu'ils sont imbibés, ils vont être mis en œuvre dans la paroi. Ce sont des produits dont la performance thermique va être dégradée, parfois la performance mécanique aussi, et ils peuvent être à l'origine, effectivement, après, de phénomènes de condensation. Et je voulais faire un zoom sur le développement fongique, Michael l'a traité, je voulais juste traiter rapidement les causes qui sont bien connues, mais les rappeler. Donc la première, ça va être la présence des nutriments et notamment des celluloses. Après, du moment où on va avoir des poussières qui comportent la cellulose, y compris sur les matériaux qui sont minéraux, on va pouvoir trouver des développements fongiques. Le deuxième, ça va être un taux d'humidité qui est relativement important. Et la troisième, ça va être des températures douces, donc entre 5 et 25 degrés. Et rappelez aussi que dans le bâtiment, les sources d'humidité sont très nombreuses. Déjà, d'une part, par la filière choisie, donc des matériaux qui peuvent demander un apport d'eau pendant la phase chantier ou pendant la fabrication. Des matériaux qui vont apporter de l'eau s'ils ne sont pas protégés vis-à-vis des intempéries, comme on a vu tout à l'heure. aussi par des infiltrations accidentelles pendant la phase chantier, parce qu'on n'a pas raccordé les eaux pluviales, parce qu'au niveau d'un appui de fenêtre, on n'a pas fait on n'a pas mis la couvertine ou autre. Et aussi des condensations d'eau à l'intérieur des parois, de par les phénomènes de migration de vapeur d'eau ou de condensation que je vais détailler maintenant. Ce sont des images des terrains du dispositif dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, la présence des ponts thermiques et la présence des défauts d'étanchéité à l'air de l'enveloppe peuvent avoir une forte incidence parce qu'il s'agit des points qui sont sensibles à la condensation. En cas de présence d'un point dérosé, effectivement, il va y avoir de la condensation et ils peuvent être à l'origine de développement fongique. Donc, vous voyez des isolants qui ne sont pas jointifs, qui ne sont pas bien posés, qui présentent des ponts thermiques et ce que ça peut donner à l'intérieur au niveau des QI. Encore une fois, toute la problématique de présence d'eau à l'intérieur de parois, donc des remontées capillaires qui ne sont pas traitées, ou des migrations de vapeur d'eau à l'intérieur de la paroi qui n'ont pas été étudiées, notamment dans le cas de la rénovation, il est fréquent qu'on n'étudie pas de manière spécifique la compatibilité de l'isolant avec l'état de la paroi ou la remontée capillaire qui n'est pas traitée. Et on peut se retrouver dans un contexte de développement fongique par la suite. Ou aussi, sur la droite, c'est une cave qui fait l'objet des remontées capillaires, qui était ventilée naturellement par le soupirail qui a été remplacé par une fenêtre pour faire un changement d'affectation de la pièce, mais qu'en absence de système de ventilation, fait l'objet de moisissures très rapidement. Les difficultés de séchage des supports pendant la phase chantier qui ont aussi été évoquées, d'une part parce qu'on va amener des matériaux qui peuvent être humides, d'autre part parce que cette étanchéité de la paroi, ce renforcement, va faire en sorte que l'air humide reste confiné à l'intérieur du bâtiment, parce qu'il y a aussi un autre contexte de vandalisme qui pousse à fermer les bâtiments. Et donc, apparition des moisissures pendant la phase chantier, qu'on a constaté depuis les débuts en augmentation, ce qui est aussi un point de convergence avec l'OQAI. Des problèmes sur les systèmes de ventilation, par l'image, on pourrait vous montrer des centaines et des centaines de photos. Des problèmes aussi bien en phase conception, en phase exécution et pendant la phase d'exploitation, par l'absence de système de, par l'absence des contrats de maintenance, par l'absence ou par une mauvaise appropriation du système de ventilation par les occupants, ce qui est le cas ici en fait. Les bouches d'insufflation gênent les occupants, qui les bouchent pour éviter cet inconfort. Et pour finir, des problèmes d'interaction entre les systèmes de combustion, la ventilation et l'étanchéité à l'air. C'est-à-dire qu'avant, dans les bâtiments conventionnels avec des fuites parasites, on pouvait se permettre d'avoir des systèmes à combustion qui n'étaient pas étanches, à foyer ouvert par exemple, parce que le comburant y arrivait de toute manière. Dans les bâtiments performants, ce n'est plus le cas. Il est indispensable de remplacer en rénovation ces systèmes de combustion ouverts par des systèmes à combustion étanches avec des arrivées d'air spécifiques pour éviter les intoxications, parce qu'il n'y a plus de comburant, s'il n'y a plus de fuite parasite dans de nombreux cas. Et avec le système de ventilation, peuvent se générer des phénomènes de dépression qui font des refoulements de fumée à l'intérieur de bâtiments. Je vous remercie.
Merci, on peut applaudir Marie-Angèle pour cette... on va le laisser. Donc pour cette présentation qui dresse un panorama assez large. Et qui complète donc l'approche statistique sur du CSTB sur de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur avec des chiffres. Là, on a une approche un peu plus qualitative, mais qui permet donc de donner une compréhension et qui complète très bien la présentation.